retrouve Florian Barbet, ses invités en direct de Saint-Maurice. Rebonjour Florian.
Bonsoir, bonsoir à tous en direct du restaurant de la gare à Saint-Maurice. En effet, pour vivre un débat sur ces élections, notre deuxième débat pour l'élection au Grand Conseil. On était dans le district de Monthey il y a deux jours. Ben, le district de Saint-Maurice nous intéresse aussi. Cinq députés vont partir à Sion, autant de suppléants. Il y a 9 communes dans le district, 13 500 habitants. Petit district avec cette double proportionnelle cette année, hein, qui va joindre les destinées des candidats de Saint-Maurice à ceux du district de Monthey. Nous allons parler budget, nous allons parler tout à l'heure formation, institution. Je vais commencer tout de suite par vous présenter mes premiers invités. Madeleine Heiniger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidate pour l'Alliance de gauche avec l'étiquette centre-gauche PCS. J'ai le plaisir d'accueillir Muriel Favre-Torello également. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes candidate, vous, PDC. Boris Niederhauser, bonsoir.
Bonsoir.
Candidat pour l'UDC. Dominique Robir, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Candidat, vous, pour le PLR. Et enfin, Jérôme Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Candidat sur la liste des Verts. Alors, on va faire le petit tour de table traditionnel sur les ambitions des uns et des autres. Il y a dans ce district 5 sièges, je viens de le dire, 2 sont occupés par le PLR, 2 par le PDC et 1 par l'Alliance de gauche. On va peut-être commencer avec vous, Muriel Favre. 2 sièges, il faut les garder coûte que coûte.
Bah, avec les inconnus de la biproportionnelle, maintenir les acquis, oui.
Maintenir les acquis, ah, et ça vous fait peur, ça, la biproportionnelle?
Bah, c'est un peu le mystère pour tout le monde, quand même. C'est quand même, ouais, un mystère, mais on est très positif et confiant.
Madeleine Heiniger, un siège à sauver, à garder à tout prix à gauche.
Alors, exactement, pour nous, on souhaite vraiment garder notre siège, et puis on a une équipe très solidaire de 4 personnes pour la députation et 3 pour la suppléance.
Dominique Robir, au PLR, vous avez fait vos calculs, là, la double proportionnelle, ou bien vous attendez que ça vienne?
Effectivement, on a fait nos calculs, donc le deuxième siège est peut-être en danger, mais l'objectif est clair, c'est de maintenir les 2 sièges, tant à la députation qu'à la députation suppléante.
Et puis alors, il y a ceux qui n'ont pas encore de siège, mais qui comptent bien en attraper un, Jérôme Fournier, Les Verts.
Oui, alors nous, c'est plutôt une réflexion qui se fait au niveau cantonal. Donc les Verts sont représentés par 2 personnes au Parlement. Et le but, là, ce serait d'arriver à 5 pour pouvoir former un groupe parlementaire. Alors ici, sur Saint-Maurice, là aussi, on fait plutôt une réflexion au niveau de l'arrondissement.
Oui, parce qu'avec la biproportionnelle, on sait que les petits ruisseaux alimentent les rivières.
Voilà,
donc les voies que vous ferez ici à Saint-Maurice ou que ceux de Montefron vont vous alimenter les uns les autres et ça pourrait...
Oui, et on espère avoir un siège pour l'arrondissement, voire 2 sièges.
Qui sait.
Mais la grande difficulté sera d'atteindre le quorum.
Et enfin, l'UDC, UDC assez récente, hein, dans le district, avec des candidats.
Oui, alors l'UDC dans le district est nouvelle, assez nouvelle, et nous faisons tout pour récupérer un siège. Avec la proportionnelle, tout est possible. Grâce à Monthey aussi.
Grâce à Monthey, voilà. Alliance Monthey-Saint-Maurice, où il vous reste quelques semaines, hein, pour bien maîtriser cette affaire de biproportionnelle, ou alors de attendre le soir du 5 mars pour comprendre, je parle là aux électeurs, ce qui s'est passé dans vos régions. Voilà, nous allons commencer avec le premier thème depuis plusieurs années. Le canton du Valais se débat avec ses finances. Il faut faire rentrer les ambitions et les réalités dans le carcan, parfois douloureux, du double frein aux dépenses et à l'endettement. Cela entraîne des études répétées sur ce que doivent être les tâches de l'État et ce que doivent être ses moyens aussi. On est en période électorale. En période électorale, les bonnes idées sur ce qu'il faut faire pour la population fleurissent de partout. Seulement, voilà, les bonnes idées, souvent, ça coûte des sous. Je me tourne vers les partis de gauche. Madeleine Heiniger, au Grand Conseil, on entend l'ADG tonner, tempêter souvent contre ce double frein aux dépenses et à l'endettement qui, selon vous, sclérose les ambitions du canton. Pour vous, il faut abandonner ça, ou du moins, dans certaines période, avoir le courage de l'abandonner?
Effectivement, parce que c'est une façon de, à très court terme, de gérer les budgets, puisque c'est chaque année qu'il faudrait avoir l'équilibre. Et puis on a l'impression qu'avec ce frein, on bloque justement les tâches que l'État doit assumer s'il est responsable. Parce que voilà, si les recettes ne couvrent pas les dépenses, il faut bloquer notre budget, quitte à ne pas pouvoir assumer nos tâches.
Ça donne aussi
on aimerait pouvoir étendre notre capacité, on aimerait pouvoir lisser en fait nos dépenses et nos recettes sur plusieurs années au lieu d'agir d'année en année.
On est dans une période d'incertitude, il y a le franc fort, il y a la crise, ouais.
Il y a
l'Europe qui ne va pas bien.
Aussi.
Alors bon, ça c'est interne à la Suisse, mais est-ce que c'est le moment de s'endetter encore plus?
Alors le but n'est pas du tout de s'endetter. C'est d'ailleurs on est au niveau du canton du Valais, on a des finances saines justement. On estime qu'on pourra avoir un peu plus de souplesse dans la gestion du budget d'année en année.
Muriel Favre, au PDC, on oscille parfois. Hein. En principe, il y a une défense assez claire de ce double frein. Votre position là-dessus?
Plutôt pour le double frein. On voit quand même que dans la PIP 2017-2020, on a des investissements moyens pour 135 millions. Donc ça veut dire quand même que le canton investit et puis que ce qui doit être fait est fait. Maintenant, effectivement, on a été dans les chiffres rouges en 2013 et 2014 avec moins 35 millions. Ça a été compensé 2015-2016. Donc le canton est tout à fait à même d'assurer et les investissements et les charges inhérentes.
On arrive parfois, d'ailleurs c'est le cas cette année, avec des comptes largement bénéficiaires. Hein. Est-ce que c'est bien le but finalement? Est-ce qu'on n'a pas un budget un peu trop serré?
Non, je dirais que l'idée c'est vraiment de pouvoir investir, de faire marcher l'économie locale. C'est le but premier à mon avis du canton, et puis que les institutions fonctionnent.
Et quand vous voyez se resserrer les taux sur les fonctionnaires, sur l'école, il y a un pincement au cœur. Vous êtes députée, hein, sortante.
Bon, c'est clair que c'est évident, il y a un certain nombre de structures qui sont touchées, mais néanmoins, dans le cadre des mesures ETS 1 et 2, je pense que c'est un passage obligé pour qu'on ait un canton peut-être un peu plus svelte, mais qui soit à l'aise dans les années à venir.
Dominique Robire au PLR, un peu plus svelte, ça se transforme souvent en vraie cure d'amaigrissement, hein. Vous voulez moins d'État?
Effectivement, donc pour rebondir sur le double frein aux dépenses et à l'endettement, donc je rejoins Madame Torello, puisque en fait ne pas respecter ce double frein, c'est soit accepter une hausse d'impôts subséquente, voire reporter les charges sur des générations futures ou sur des années futures. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. Donc à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Et puis concernant le fait de la réduction des charges, donc Muriel Torello en a parlé également, avec les TS 1 et 2 qui sont effectivement de bonnes procédures qui peuvent générer une baisse des charges sans
les gens ne doivent pas avoir peur que les services à la population diminuent au bout du bout avec ces
alors,
économies.
Non, parce que le but de l'ETS, en fait, c'est d'analyser la structure des charges pour savoir si il y a éventuellement des services ou des fonctions qu'on pourrait faire amaigrir et puis laisser du budget pour d'autres fonctions.
Monsieur Niederhauser, Boris Niederhauser à l'UDC, on est très très pointilleux hein, sur ce double frein.
Tout à fait, oui. Nous jugeons que faut économiser, que les dépenses pour 2-3 ans vont être rudes, donc serrées, et nous ne pouvons pas continuer à dépenser de l'argent que nous n'avons pas.
Il faut économiser où? Alors parce que là, on a déjà fait passer les fonctionnaires un peu, la formation, pas mal. Hein, c'est votre ministre Oscar Freisinger qui a dû serrer,
tout à fait, oui.
Dit, hein, à longueur de législature, serrer les budgets. Où est-ce qu'on peut économiser maintenant?
Ben, nous pouvons encore économiser dans le social, énormément dans le social, étant donné que, d'après les derniers chiffres, nous avions 24 millions de gens au social.
24 millions de francs pour les gens au social.
24 ouais. millions de, ouais. oui, oui. Excusez-moi.
Pas 24 millions de gens, mais
non,
ça fait
non,
peur.
Non. Et maintenant, nous arrivons à 50 millions de francs par année. Donc effectivement, c'est plus de la moitié, et tous c'est des étrangers qui touchent justement ces subsides qui sont payés par l'État, dans lequel nous devons faire énormément de progrès pour diminuer tout ça,
cette masse. Fournier, trop de social. Trop d'étrangers.
Non, bah évidemment. Enfin, moi, ça me fait un petit peu souci de voir qu'on coupe dans des domaines comme le social, comme l'enseignement. Enfin, c'est vraiment, enfin, des tâches que l'État devrait assurer en fait. Hein. Moi, je pense qu'on navigue un petit peu à vue là. Quand même, il y a des périodes où ça va bien, des périodes où ça va moins bien. Il y a eu effectivement ce mécanisme de double frein qui a été mis en vigueur à partir de 2005. Ensuite. 2010, il y a eu un surplus, puis là, il y a eu toute une série de décisions qui ont été prises, un peu incohérentes, hein, donc de baisse d'impôts. Voilà, enfin, il y a toute une liste, je ne vais peut-être pas vous la citer, mais c'était donc un manque à gagner de 42 millions de francs. Et puis, tout à coup, les nuages arrivent de nouveau, 2013-2014, gros déficit, hein, il n'y avait pas les 56 millions de la BNS. Donc elle n'a pas pu distribuer le canton les millions qu'elle n'avait plus. Et puis là, tout à coup, 806 millions de déficit. Donc on a l'impression que ce déficit, il a été un petit peu organisé quand même, en tout cas en partie. Voilà, donc il y a le premier décret TS1. Il faut économiser, on économise surtout dans le domaine de la sociale, dans le domaine de l'enseignement. Bon, moi, étant enseignant, je vois les conditions se dégrader. On a de plus en plus d'élèves dans les classes.
Voilà, donc un enseignement potentiellement péjoré, on l'a bien compris. Il y a une fragilité, Muriel Favtorello, dans ce que disait Jérôme Fournier. C'est cette dépendance qu'on a l'air de voir depuis l'extérieur à ce qui vient de l'extérieur du canton, justement. La péréquation financière fédérale ou les dividendes, si l'année est bonne, de la BNS. On peut continuer à vivre comme ça, en étant un œil braqué sur Berne tout le temps.
Bon, j'aimerais déjà rebondir sur ce qu'a dit monsieur. En fait, le canton navigue pas à vue, ça, je suis pas d'accord. En fait, on a un excellent ministre des Finances qui, depuis de nombreuses années, en fait, contrôle de manière excellente nos finances. Et en fait, on l'a vu, il a anticipé les statistiques de BAC Basel, puisque ça fait quand même effectivement depuis 2012 qu'on parle d'assainir un petit peu les finances. Je suis pas d'accord non plus quand on dit qu'on touche qu'aux santé ou qu'aux sociales. En fait, tous les domaines ont été touchés, donc enseignement, santé, sociale, économie, même le canton, puisqu'il y a eu le personal stop. Maintenant, effectivement, par rapport à la péréquation fédérale, effectivement, c'est un souci, c'est quand même 20% des recettes brutes. Donc, on est quand même dépendant de la péréquation. Et il faut garder un œil attentif là-dessus.
Madeleine Niguer, il faut que l'argent rentre. Alors, vous n'êtes pas pour les baisses d'impôts. Je suis content, pour l'instant, personne ne m'a parlé des RIE 3 encore. Parce que normalement, c'est dans ces débats qu'on le place une petite dernière fois avant dimanche. Mais il faut quand même que l'argent rentre.
Effectivement, il y a plusieurs éléments dont on n'a pas la maîtrise, comme la péréquation intercantonale, la BNS, etc. Mais on a toujours regretté au niveau de la gauche les baisses d'impôts qui ont été effectuées ces dernières années, parce que on est obligé de compter aussi sur cette manne-là pour que les dépenses de l'État puissent être assumées. Mmh. Et puis j'aimerais réagir par rapport au social, par exemple. À l'aide sociale en Valais, elle est nettement inférieure à l'aide sociale en Suisse, donc c'est pas là qu'il y a le problème. Il y a toujours ce message de l'UDC qu'on dépense pour le social et les étrangers.
Donc Maria a raison de rester en Valais.
mais l'État, justement, c'est bien plus que le social et l'asile, etc. L'État, c'est la formation. La formation, c'est un investissement pour le futur. L'État, c'est aussi la santé. Il y a un vieillissement de la population. Il faudra assumer ses coûts. Et si on n'a pas les recettes, et si on ne prend pas nos responsabilités comme État, sans compter sur les impondérables, on va pas pouvoir assumer ces charges.
Dominique Robir, c'est le fameux fossé gauche-droite. Est-ce qu'il faut demander plus d'argent aux entreprises, aux contribuables, ou au contraire baisser les impôts? Vous, votre idée, c'est en tout cas pas d'augmenter les impôts.
Non, alors effectivement, il faut, à mon avis, donc l'État a un contrat avec les entreprises, c'est que les entreprises, donc l'État doit fournir des conditions cadres pour que les entreprises puissent prospérer et donc générer du bénéfice, qui lui-même va être imposé, et parce qu'on a, on sera, aucune entreprise ne va payer d'impôts s'il ne fait pas de bénéfice, et donc l'entreprise va qui génère beaucoup de bénéfices, ça va être bon pour les finances publiques.
Donc les impôts doivent baisser.
Alors,
où est-ce que ça va en ce moment?
Alors, si vous voulez me lancer sur la RIE 3.
Non, je ne veux pas me lancer sur la RIE 3. Vous avez une législature à venir également. Il n'y a pas que les impôts sur les entreprises. Il y a les particuliers aussi.
Donc, pour moi, pas vraiment, puisque les impôts, en fait, pour les particuliers ont déjà baissé. On le voit avec les recettes des communes, pour laquelle on est lié avec les recettes du canton. Donc, notamment, les impôts sur les familles ont baissé de manière assez prononcée ces derniers temps, ce qui est très bien. Mais je pense que maintenant, l'effort a été fait. Et puis, c'est une situation qui est relativement équilibrée.
On a bien perçu les différences entre la gauche et la droite sur cette question. On va faire un tour de table rapide. Vous y attendez tous. Il faut qu'on en parle. C'est la grande question de cette année 2016-2017, depuis qu'on sait qu'un projet existe peut-être pour 2026. Boris Niederhauser, on va commencer avec vous. Les Jeux Olympiques, les fameux Jeux Olympiques. Alors, double question. D'abord, pour contre, mais assez rapidement. Et puis, est-ce que avoir une ville de 20 000 habitants, comme ça, tout près, là, à Colombie, Bémura, ça vous enchante ou ça vous fait peur?
Alors moi, ça m'enchante, ça me fait pas peur du tout. C'est un projet magnifique pour le Valais, pour toute la région, qui peut que amener du bénéfice.
Dominique Robire, PLR.
Donc moi je dirais oui, mais donc effectivement les Jeux Olympiques c'est une aventure superbe. Maintenant il faut que les coûts soient maîtrisés, il faut que l'aspect écologique soit maîtrisé également, et éventuellement si le cahier des charges qui serait fourni par le CIO respecte ses choix, ben je pense que je serais favorable. À défaut, non.
Colombey, nouvelle ville de 20 000 habitants.
Plutôt non.
Jérôme Fournier pour les Verts.
Oui, alors fondamentalement contre le principe même de ces JO, en fait, qui à chaque 4 ans ont lieu dans un endroit différent. Donc c'est le principe même de ces JO va contre le principe du développement durable.
Mais on nous dit qu'ils seront vertueux, qu'ils seront...
Oui, bon, ben on peut bien mettre une couche de vernis développement durable, mais enfin, ce serait beaucoup mieux d'utiliser les mêmes infrastructures, de faire un tournus entre différents sites qui ont ces JO.
Qui ont déjà les infrastructures.
Donc il faut reconstruire des infrastructures, et puis ça laisse une ardoise en fait.
Très rapidement, une ville de 20 000 habitants de plus dans le Chablais, ça vous parle?
Ben, ça m'inquiète, oui.
Ça vous inquiète. Muriel Favre-Torello, PDC.
Bah, plutôt pour les raisons qui ont déjà été évoquées. Effectivement, c'est un projet qui est magnifique. Maintenant, bon, bah, le Grand Colombey, c'est un autre problème. Les finances étant importantes, mais je crois qu'il faut qu'on parle maintenant du Valais, il faut qu'on parle de notre canton, parce que je pense qu'on a un petit peu les oubliés.
Donc, ça sera une bonne carte de visite, c'est
carte
ce que vous
visite.
Dites. Madeleine Héliguer, pour terminer.
Alors, je partage les craintes de mes collègues au sujet du financement et puis de l'impact écologique. Je pense qu'il peut y avoir aussi une utopie derrière ces jeux si on arrivait à envisager un tourisme complètement différent, puis qu'on prenait le train dans ce but-là, je pourrais être favorable.
Vous serez tous potentiellement des élus du peuple. Madeleine Héliguer, il faut que la population vote.
Oui.
Oui. Tout le monde d'accord là-dessus?
Oui,
tout le monde d'accord là-dessus, donc on fait pas de prise de parole. Merci en tout cas à tous les cinq. On va se quitter pour quelques instants, le temps de changer de candidat, et on revient pour une deuxième partie. À tout de suite.